Tous et à toutes, j'ai demandé à mon fils de chanter un chant juste avant la prédication. Et notre frère Hugues, aussitôt après le chant, nous conduira dans la lecture de notre texte de la semaine dernière. Je vous salue, je vois qu'il y a des personnes de Lyon. Alors vous saluerez bien les Lyonnais et les Lyonnaises, parce que j'ai passé quelques temps de ma vie là-bas, en formation, la rue de Marseille. Et donc voilà. Bienvenue et que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien ce matin.
Quelle grâce, Jésus-Christ est venu pour me chercher. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Jésus-Christ est venu. Il a vécu en simple homme, et en cela s'étant humilié, est-il amour plus grand? Quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce, quelle grâce! Il s'est sacrifié pour mon péché. Moi qui étais condamné, il a pris le châtiment que je méritais. Est-il amour plus grand? Quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce, quelle grâce! Il m'a tout pardonné et à jamais. Qui donc pourra m'accuser? Il a effacé l'acte qui me condamnait. Est-il l'amour plus grand? Quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce, quelle grâce! M'appeler son enfant, et je le suis, moi un étranger de la maison, devenu héritier avec Jésus. Est-il l'amour plus grand? Quelle grâce, quelle grâce! Quelle grâce, quelle grâce! Oh, 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 oh. Quelle grâce, quelle grâce!
Merci beaucoup, merci. Je veille à ce que mes enfants puissent transmettre ou transcrire dans leur vie ce qu'ils chantent. Je les oblige de temps en temps à se mettre un peu à la brèche. Merci.
Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jusque-là.
Merci beaucoup, Hugues. J'espère que vous avez été attentifs au texte, puisque nous allons, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, tant pis, vous allez prendre en cours le déroulement de notre texte. Et ce matin, je voudrais que la Bible soit un écran pour que nous puissions nous projeter, et nous allons projeter ce texte, le cep et les sarments. Nous abordons maintenant la troisième partie de notre réflexion que nous inspirent les 11 premiers versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean que notre frère vient de lire. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur le vigneron et son action dans la vie de ses enfants et dans l'Église. Un bref rappel, n'oublions pas que nous sommes des sarments et que la première condition pour porter le fruit que Dieu attend de nous, c'est de demeurer attaché au cep, le Seigneur Jésus-Christ. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut être conscients de quatre éléments importants que nous avons vus la dernière fois. Notre appartenance au cep, notre dépendance au cep, notre attachement au cep, et enfin sa présence en nous pour que notre union et notre communion avec le Seigneur nous communiquent en fait sa nature vivante. Nous avons aussi noté que dans ce texte, l'association de quatre personnes, le vigneron, bien sûr, le Père, qui prend soin de sa vigne, Jésus, le Fils, le cep qui porte les sarments, et le Saint-Esprit, l'envoyé du Père et du Fils qui accomplit l'œuvre divine en nous. Et bien sûr, les sarments. Le sarment, chaque disciple de Christ qui lui est attaché. Frères et sœurs, les sarments de la vigne doivent être taillés. C'est une évidence même, car leur développement n'est pas laissé à la seule force de la nature. Une main extérieure doit intervenir pour couper ce qui prend inutilement de la sève et nuit à la qualité du fruit et empêche la progression. Vous savez, l'important, ce n'est pas la beauté du sarment. Ce qui est essentiel, c'est son fruit. Et en fait, frères et sœurs, il ne reste pas grand-chose du sarment lorsqu'il est taillé. Mais toute la sève qui lui parviendra servira à produire le fruit demandé et tant attendu du Seigneur. La taille de la vigne nécessite l'intervention du vigneron, de celui qui connaît la vigne et qui sait comment la tailler. Jésus nous dit que son Père est le vigneron. Oui, celui à qui appartient cette vigne, c'est Dieu. Il la connaît, il la garde, il en prend soin, il sait comment l'entretenir, il sait comment la tailler afin qu'elle soit féconde, comme nous l'avons lu la semaine dernière en Ésaïe chapitre 27. L'enseignement du Seigneur concerne à la fois son Église, mais aussi chacun de nous, de ses enfants en particulier. Donc, nous devons être très attentifs à la pensée de Dieu concernant ce qui doit être fait pour notre utilité dans l'Église. Il veut que nous soyons utiles. Quelles sont nos priorités ? Deux pasteurs de cette Église, j'ai appris deux choses d'eux. L'un sur la fidélité, fidélité, fidélité. Et l'autre aujourd'hui sur la priorité, la priorité. Et vous comprenez bien que si je fais de Dieu une priorité dans ma vie, je lui serai aussi fidèle. L'un ne va pas sans l'autre. Merci à eux. Dieu opère plusieurs choses dans notre vie. Il nous attire à son Fils Jésus-Christ afin de nous attacher à lui pour produire en nous sa nature divine. Ensuite, que va faire le Père ? Il va nous tailler. Il va nous émonder les sarments que nous sommes devenus afin, pourquoi ? De développer la vie de Christ en nous pour nous permettre de produire le meilleur fruit pour sa gloire. L'émondage consiste à diminuer la taille du sarment afin que le fruit paraisse et viennent à maturité. Jean-Baptiste disait, à juste titre, en Jean 3, 30, au sujet de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Paul, plus loin, dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Émondés. Avons-nous été émondés ? Oh, moi, je l'ai été. Émondés, j'ai regardé... C'est décortiquer, élaguer, tailler. Et je vais plutôt retenir le verbe décortiquer. Et je me suis rappelé quand j'étais gamin, à la cueillette des pois, lorsque Noël approchait, les pois d'Angol, les pois d'Ibois, etc., il fallait les décortiquer, ça prenait du temps. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu, le vigneron, le propriétaire de la vigne, va entrer en action comme un père vis-à-vis de ses enfants. Et ceci d'autant plus important qu'il s'agit de l'éducation des enfants. Quelle est notre relation avec Dieu? Avons-nous peur de lui comme un juge impitoyable? Nous sentons-nous loin de lui comme un père éloigné et mal connu? Essayez de vous rapprocher de vos fils et de vos filles. La semaine dernière, j'ai fait un cinéma avec mon fils Josué. C'était la première fois qu'on faisait un cinéma ensemble. Et je ne l'ai jamais entendu rire comme cela. On était tous les deux. Et ça m'a réjoui, ça m'a réchauffé. Quelle est notre relation avec notre Dieu? Et je crois que nous ne sommes pas suffisamment conscients, frères et sœurs, que la relation des rachetés de Christ avec Dieu est premièrement une relation filiale. Dieu est notre Père. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés, et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et notre Père nous émonde, c'est-à-dire qu'il nous éduque, il nous forme afin que nous soyons utiles pour l'œuvre. Et trop souvent, nous considérons le fait d'être émondé comme le résultat d'épreuves, de souffrances, de réprimandes qui poussent certains chrétiens dans la rébellion, voire à rejeter le Seigneur. Non. Nous devons plutôt parler d'éducation, car dans le langage spirituel de Jésus, émonder veut dire éduquer, élever, chérir, amener à une plus grande dimension. C'est le résultat d'ailleurs d'une bonne éducation. Nous savons qu'un père digne de ce nom éduque ses enfants afin qu'ils grandissent dans les meilleures conditions. Et pour cela, il devra les instruire, les conseiller, les reprendre aussi et parfois les corriger. Il y a des choses que nos enfants doivent acquérir et d'autres choses dont ils devront se séparer. C'est ce que Dieu, notre Père Céleste, fait avec nous. Venez avec moi en Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. À partir du verset 5. Nous lisons. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez, verset 7, le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Et nous devrions regarder ces châtiments en ayant les yeux fixés sur Jésus. Dans ce même chapitre, au verset 2, il nous dit « Ayez les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Amen. Frères et sœurs, nous y apprenons que si nous sommes enfants de Dieu, eh bien Dieu s'occupe de nous comme un père qui veille sur ses enfants. Jésus dit que le vigneron est son père. Nous en concluons que Dieu agit envers nous sans dureté ni brutalité, mais avec bonté et bienveillance, comme un père qui a compassion de ses enfants, un père qui élève correctement ses enfants, car l'éducation des enfants fait partie des choses normales dans une famille. Bien entendu, cela se traduit quelquefois par des oui ou par des non. Et lorsque nous disons non à nos enfants, ils pensent qu'on ne les aime pas. Et souvent aussi par des corrections, mais aussi par des encouragements. Quelle est la dernière fois vous avez encouragé votre fils ou votre fille? Dans l'enseignement du Seigneur ce matin, nous trouvons ici être émondé, éduqué. Cela produit deux résultats. Tailler le sarment pour le débarrasser de tout ce qui est inutile et nuisible à son rendement, à sa maturité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, fortifier le sarment pour améliorer la quantité et surtout la qualité de son fruit. Vous savez, la volonté et l'honneur de Dieu, notre Père Céleste, ce que nous portions plus, de plus en plus de fruits. Et quelle que soit notre ancienneté, quelles que soient nos expériences douloureuses, nos expériences spirituelles, pour lui, nous resterons toujours ses enfants. Frères et sœurs, vous savez que Dieu agit de plusieurs façons dans notre vie pour nous émonder. Et les plus courantes, j'en citerai que trois. L'écriture, la parole inspirée de Dieu qui enseigne, qui convainc, qui corrige, qui instruit dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. La parole écrite de Dieu agit comme une lame qui coupe ce qui doit être ôté en nous. Et ça fait mal quelquefois. J'en suis conscient. Dieu s'en sert comme la cèpe. Vous savez, la cèpe, cette petite hachette qui coupe. Eh bien, c'est avec ça qu'on coupe un petit peu, qu'on émonde. Si nous laissons, frères et sœurs, si nous nous laissons docilement cette parole divine nous instruire, et si nous obéissons lorsqu'elle nous demande de nous séparer de certaines choses, l'émondage se fera en douceur. Deuxième chose, le Saint-Esprit. L'agent divin opérant en nous l'œuvre de Dieu pour rendre témoignage et glorifier le Christ. Il sanctifie, il instruit, il convainc, il dirige, il console, il inspire, il relève, il aide, il soutient, il assiste et il fortifie. Et là aussi, si nous nous laissons, si nous sommes dociles, nous nous soumettons à sa volonté, ses désirs, tout ira bien et l'œuvre du Seigneur avancera ici à Argenteuil. Troisièmement, enfin, lorsque nous sommes trop réticents et sourds comme l'aspic, sans intelligence, le Père émonde par l'épreuve, la souffrance et les méchants seront retranchés, nous dit le psaume 37 au verset 9. Cependant, je veux encore croire ce matin que notre Père Céleste agit toujours avec bonté et même lors de notre émondage, il ne se départit jamais de son amour compatissant envers nous. Ses interventions n'ont jamais pour but de nous détruire, de nous écraser, mais de nous relever, de nous corriger, de nous édifier, nous perfectionner afin de nous reconstruire en lui. Et notre part dans ce processus d'émondage est de livrer notre volonté à Dieu, d'accepter qu'il fasse en nous son œuvre de purification et de sanctification, afin que de pouvoir nous séparer de certaines choses qui ne le glorifient pas, qui nous empêchent de progresser, qui empêchent les sarments de produire son fruit. Frères et sœurs, la difficulté réside dans notre résistance au Seigneur, dans notre surdité, le recul de notre volonté insidieusement séduite et retenue par notre nature charnelle, les choses du monde, nos passions, nos envies, notre rébellion. Oui, frères et sœurs, il nous faut accepter que certaines choses meurent en nous, afin que la vie de l'Esprit vive et grandisse dans notre vie et dans l'Église, selon l'objectif divin de Dieu, porter un fruit qui demeure et progresse à la gloire de Dieu. Oui, mais notre nature humaine n'aime pas ce qui l'abaisse. Elle n'aime pas être reprise. Elle n'aime pas être léguée au second plan. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens croient qu'avec leur propre force, ils vont régler les problèmes. Non, nous l'avons lu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, nous oublions trop souvent que Jésus aussi s'est abaissé, humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et il faut que la nature de Christ paraisse de plus en plus dans nos vies, afin que Christ soit glorifié. Dieu agit en nous dans ce sens, et si nous voulons demeurer attachés à lui, il le fera parce qu'il l'a promis. Il y a des conditions pour porter du bon fruit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Où sommes-nous enracinés ce matin? Où sommes-nous plantés? Où trouvons-nous notre stabilité? Et ces textes que je viens de lire rejoignent très bien l'enseignement de Jésus. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, restons, s'il vous plaît, d'un cœur ferme attaché au Seigneur Jésus, afin de porter le fruit qui demeure et qui glorifie notre Père céleste. Retranché. J'ai cherché le verbe retranché. J'ai trouvé ôter quelque chose d'un tout. Nous avons été émondés. Ce qui est bien, ce qui est nécessaire pour porter du fruit, ce qui est nécessaire pour la progression. Mais quelquefois, le Seigneur intervient et il retranche. Enlever, ôter quelque chose d'un tout. Et dans l'enseignement de Jésus, nous remarquons qu'il est aussi question de couper, de retrancher. Oui, frères et sœurs, il est possible d'être retranché, supprimé, ôté de la vigne par le vigneron, Dieu lui-même. Écoutez, je suis le cep. Non, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On le jette au feu et il brûle. C'est à des chrétiens qui les questions là. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas des personnes inconverties. Et cet avertissement, nous le trouvons sous d'autres formes dans la parole de Dieu. En Matthieu, par exemple, chapitre 3, verset 10, il nous est dit, déjà la cognée, vous savez la cognée, c'est encore cette image de petite machette, de petite hache, sécateur, si vous voulez, qui est mise à la racine des arbres, tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Vous savez, cette petite machette-là, le fleuriste ou le vigneron, il le laisse juste là. Que quand il arrive, c'est déjà tout prêt pour couper. Et au chapitre 3 de Matthieu, aussi au verset 12, il a son vanne. Vous savez, le vanne, le petit tamis, là, ce petit passoir. Cette petite passoire, il l'a à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. En Hébreu, chapitre 6, verset 7, écoutez-moi. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe fertile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, blâmée, condamnée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Oui, parfois, le Seigneur Dieu intervient personnellement dans son Église pour ôter, pour retrancher. Parfois, des sarments doivent être coupés, retranchés du cep. Ce n'est pas les hommes qui le font, mais Dieu lui-même. Tout sarment qu'il ne porte pas du fruit, il le retranche. N'attendons pas que le Seigneur agissent de la sorte envers nous. Si les deux premières choses, c'est-à-dire l'émondage, c'est quelque chose qui est bénéfique dans la vie des enfants de Dieu, mais mes frères et sœurs, n'attendons pas que le Seigneur puisse nous retrancher. Car vous savez, si l'on replace l'image de ce retranchement dans la réalité, c'est une chose terrible et dramatique. Lorsque Dieu doit intervenir pour retrancher une personne dans son Église, cela arrive, mais cela est nécessaire. Cela est nécessaire pour l'accroissement spirituel des autres membres de l'Église et pour la récolte du fruit. Nous remarquons que ce qui est coupé, retranché, réprouvé est destiné au feu. Personnellement, je ne crois pas qu'il s'agisse ici du feu éternel, d'un jugement définitif pour une condamnation éternelle, mais d'un feu qui pourrait être celui dont il est question au tribunal de Christ. 1 Corinthiens 3,15 nous dit, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Et parfois, des enfants de Dieu passent par des jugements afin de ne pas être condamnés éternellement. Ce qui me semble encore ressortir de 1 Corinthiens chapitre 11. Écoutez, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et d'ailleurs, le premier jugement, je pense à mon avis, c'est nous-mêmes. Nous devrions nous juger nous-mêmes. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et encore, Corinthiens, vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Rappelez-vous cet événement, cet homme qui prenait la femme de son père. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ôtez du milieu de vous. Et oui, frères et sœurs, il y a des moments où Dieu intervient pour juger sa maison, pour retrancher, pour ôter, car nous ne produisons pas le fruit demandé, le fruit qu'il demande. Je vous donne ici un enseignement très important et très grave. Dieu le Père, le vigneron de la vigne spirituelle, intervient par des épreuves sévères afin de préserver son œuvre et sauver ses enfants rebelles d'une condamnation éternelle. Et il est capable d'intervenir par certaines corrections qui peuvent aller jusqu'à la mort physique. Rappelez-vous en Actes chapitre 5 avec Ananias et Saphira. Ce sont nos épreuves dans l'Église ou dans notre vie personnelle. Et nous retrouvons cela dans de nombreux passages de la Bible, que ce soit à l'égard d'Israël ou de l'Église. Lorsque Dieu nous juge et nous envoie des épreuves, c'est toujours dans le but de nous faire échapper à des choses plus graves. Et lorsque Dieu nous émonde, c'est toujours dans le but de nous exhorter, de nous faire progresser pour produire du fruit. Vous avez vu la différence des deux? L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, « Jugez-vous vous-même. » C'est-à-dire prendre conscience de son propre péché ou de sa désobéissance en s'examinant soi-même et en être humilié. C'est confesser ce péché et cette désobéissance au Seigneur en lui demandant le pardon. C'est aussi par la suite s'en détourner. Va et ne pêche plus. Car frères et sœurs, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restera plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Paul déplore que ceux qui avaient péché ne se fussent pas repentis et s'apprête à intervenir vigoureusement. Oui, si nous avons des péchés dans nos vies, des choses qui nous empêchent de progresser, il est grand temps, pendant que le Seigneur nous donne le temps, il est grand temps de venir, de confesser cela devant le Père, afin de pouvoir retrouver cette communion, retrouver cette unité, et demeurer dans le Père. Paul disait, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales. Vous savez, des cabales, c'est quoi? C'est des petits clans, des petits groupes dans l'église. Des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Je dis d'avance à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Vous devez savoir que si nous arrivons à tromper les serviteurs de Dieu et les responsables d'église, Dieu se chargera lui-même de mettre de l'ordre dans la maison. Le Seigneur intervient d'abord, d'ailleurs, dans l'église de Corinthe, par des jugements sévères. Et nous aussi, nous avons besoin de retrouver dans l'église la crainte du Seigneur qui intervient comme un père qui corrige ses enfants. Avons-nous la crainte du Seigneur dans notre église? Il nous a dit en Actes chapitre 5 qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Nous devons être vigilants et fermes afin de nous garder nous-mêmes du mal et préserver l'église de la corruption. Cependant, je veux encore et laisser encore le Saint-Esprit travailler en nous, car nous remarquons à la fois la patience, mais aussi et surtout la miséricorde de Dieu dans ses interventions. Frères et sœurs, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il permet certaines choses dans nos vies, comme les épreuves, les tribulations, la maladie, mais pas la tentation. Pas la tentation. Dieu nous envoie des tribulations et des épreuves pour voir où nous en sommes avec lui, pour éprouver notre foi, comme il nous l'a promis en Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Et en Deutéronome 13, 3, ce que c'est l'Éternel qui met son peuple à l'épreuve. Pourquoi? Parce que cela produit la persévérance. Mais si vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Non, pas la tentation. Ce mouvement intérieur qui nous incite au mal ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Oui, car Dieu ne tente personne, nous dit Jacques. Prenez avec moi Jacques. Jacques chapitre 1er, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1er, verset 13. Parce que beaucoup de jeunes, de personnes pensent que Dieu m'a envoyé une tentation, que c'est à cause de Dieu que je suis tenté. Non, Dieu ne tente personne. Jacques chapitre 1er verset 13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Mais vous savez, ce que j'aime avec Dieu, vous savez, j'aime le Seigneur, parce qu'il nous donne toujours une solution, il nous donne toujours une porte de sortie, une possibilité. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ah! Il nous est dit, et c'est un remède pour nous, aucune tentation. J'ai dit bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, si nous sommes tentés, frères et sœurs, il nous suffit simplement de nous détourner les regards de cette tentation. Et dans ce monde où la tentation est de taille, il est important pour nous de faire comme Jésus lorsqu'il a été tenté. Nous rappeler des Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Et oui, ce n'est qu'après avoir souvent averti ceux qui pêchent et leur avoir donné du temps pour se repentir que Dieu intervient par ses jugements. Rappelez-vous en Apocalypse, chapitre 2, cette église de Thyatire où il y avait cette Jézabel. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés entraîner par la doctrine. Mais aussi, il y avait un autre groupe. Et on les appelait ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et à cette église, le Seigneur dit à cette catégorie de personnes qui étaient ancrées dans cette doctrine, il dit, je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Et à l'autre catégorie de personnes qui sont restées fidèles, il dit à tous les autres qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Non, vous en avez assez. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et à cette église de Sardes, il est dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je fais en sorte, et je prie le Seigneur, que personne ne puisse prendre ma couronne. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon car il use de patience envers nous. Ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure. Oui, si ce matin tu n'es pas en Christ, si ce matin tu ne connais pas le Seigneur, si ce matin tu n'as pas donné ta vie à Christ, bien sache que le Seigneur te donne aussi le temps. Parce que ce qu'il désire, ce n'est pas que tu meures, mais c'est que tu te repentes et que tu vives. Dis-leur, il dit, que je suis vivant et que ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive, qu'il revient de sa mauvaise voie. Sous quelle voie êtes-vous ce matin? Et pour conclure, je dirais que nous avons été greffés. Nous avons été greffés en Jésus-Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui et nous demeurons attachés à lui, le divin cep, afin de glorifier Dieu par le fruit que nous portons. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, ce matin. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et l'exhortation finale, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Nous sommes les sarments, et Dieu le vrai cep. À qui sommes-nous attachés ce matin? En qui demeurons-nous ce matin? Voilà ces deux questions auxquelles nous allons devoir répondre avant de quitter cet édifice ce matin. Frères et sœurs, ne laissons pas les choses aller jusqu'à notre retranchement. Si l'émondage est nécessaire, il y a toujours un recours pour revenir dans la communion et retrouver notre intimité avec notre Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Je vous ai dit ces choses ce matin afin que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Amen et que Dieu vous bénisse.